Les coqs chantent et jour pareil, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Cette semaine, nous allons voir les problèmes d'approvisionnement en eau, d'assainissement du cadre de vie et de production agricole à Ouégrega et Koudiré, deux villages de la commune de Tanguin-Dassouri au Burkina Faso. Comme dans de nombreux pays du Sahel, l'accès à l'eau potable et l'assainissement constituent jusqu'à présent un enjeu majeur du développement au Burkina Faso. Les maladies diarrhéiques à elles seules sont la cause de 1,8 million de décès chaque année dans les pays non industrialisés. Environ 88% de ces décès sont liés à une consommation d'eau impropre et à des pratiques d'hygiène et d'assainissement inadéquats. On pourrait multiplier ici les chiffres. Retenons seulement que la question est grave. Évidemment, les autorités gouvernementales, les collectivités territoriales et des ONG nationales et internationales interviennent sur ce terrain. Mais les besoins sont nombreux alors que les familles sont pauvres, que les municipalités ont des budgets squelettiques, que les ministères n'ont pas toujours les moyens nécessaires. Parmi ces initiatives, nous allons voir aujourd'hui le programme USAID Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène. Il s'agit d'un programme financé par le gouvernement américain et qui intervient dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Notre périple commence au siège de cette ONG américaine dans le secteur 54 de la ville de Ouagadougou, plus précisément dans le bureau du docteur Lactar Boukeri, professeur à l'université de Miami en Floride, directeur régional.
Quand on avait commencé en 2011, notre projet ciblait vraiment une approche communautaire.
Communauté, ça veut dire le village.
Le village, c'est-à-dire que on voulait vraiment régler ou aider à régler les problèmes de la communauté et même des individus, des familles. Et donc, pour cela, il fallait s'attaquer à tous les problèmes qu'ils ont. On ne peut pas, par exemple, aller dans une communauté, leur parler de l'assainissement ou de l'hygiène, ils n'ont pas d'eau. Et vice-versa, on ne peut pas leur parler de l'eau si on ne leur parle pas de l'agriculture, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette eau, on ne leur parle pas de l'assainissement. Et donc, on a essayé, nous, de cibler ces communautés et d'essayer de voir toute l'approche communautaire avec le genre, le rôle des femmes. Donc, on a encouragé les communautés à donner, par exemple, des parcelles de terrain aux femmes pour qu'elles puissent contribuer au développement de la famille. On a aussi adressé le problème des changements climatiques au niveau de ces régions. Nous subissons l'impact des changements climatiques de façon très importante ici.
C'est-à-dire que comme ce sont les femmes qui s'occupent d'approvisionnement en eau, qui s'occupent des questions d'hygiène, des questions d'assainissement, du cadre de vie, on leur donne une grande place dans vos programmes.
On ne peut pas juste leur donner une place, mais il faut aussi les aider, il faut les former. Donc nous avons développé des programmes de formation. Et nous avons aussi engagé ce qu'on appelle des champions du genre, des personnes au niveau de communautaire qui vont actuellement aider les hommes à comprendre la situation et les femmes à s'accaparer certaines choses. Et puis, quand l'eau est disponible au niveau de la concession, donc la femme et la jeune fille, là, elles ont beaucoup plus de temps. Donc elles n'ont plus besoin d'aller chercher l'eau par distance de kilomètres pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille.
J'ai vu que dès qu'on résout les problèmes de questions d'approvisionnement en eau, du coup, les jeunes filles peuvent se scolariser.
Effectivement, une fois qu'on libère ces jeunes filles de cette corvée, les parents, la mère et le père génèrent des revenus supplémentaires. Ils sont maintenant capables de payer pour la scolarisation de leurs enfants. Et on a vu beaucoup de cas comme ça.
C'est-à-dire que, par exemple, les femmes passent la journée à aller chercher de l'eau. Vu qu'il y a des distances et que c'est porté sur la tête, ce n'est pas en quantité suffisante et ce n'est pas toujours une eau potable.
La majorité du temps, ce n'est pas une eau potable. Dans la majorité du temps.
D'où des maladies.
D'où les maladies. Comme je l'ai dit auparavant, on voulait une approche communautaire. Nous avons fait des analyses et des recensements au niveau des communautés de plus de 50 villages où nous avons, par exemple, analysé l'eau des points d'eau, l'eau dans les conteneurs quand ils transportent l'eau à la maison et l'eau dans les canaries à la maison. Et nous avons trouvé que dans la majorité des cas, on commence avec une eau contaminée. On la contamine encore dans le transport, puisque le conteneur, le bidon, il n'est pas toujours propre. Et on la contamine quand on la stocke à la maison dans le canari. Donc, à la fin, on obtient une eau qui est totalement contaminée. Et je dirais même super contaminée. Alors nous, pour essayer de régler aussi ce problème, nous avons misé sur des technologies à faible coût et des technologies qui peuvent être déployées tout de suite. Nous avons formé des fabricants de pompes ici au Burkina Faso. Nous avons formé 4 comme ça, Koudougou, Dédougou, Boromo et Ouagadougou. Ces gens-là fabriquent des pompes, ils les vendent et ils continuent à fabriquer et à vendre sans le support du projet. Celui de Koudougou, par exemple, a multiplié par 3 son équipe. Donc c'est devenu un business assez intéressant pour lui. Celui de Ouagadougou a vendu quelque chose comme 1000 systèmes de lavage de mains, en dehors du support du projet. Il a vendu des dizaines de pompes en dehors du support du projet. Donc c'est un business en soi, maintenant ces gens travaillent. Ça c'est la première approche. La deuxième approche pour résoudre le problème de la qualité de l'eau au niveau des concessions, au niveau des familles, il y a un moyen de traiter cette eau. Donc nous avons fait la promotion de Aquatabs, qui est un produit, un comprimé. Un comprimé traite 20 litres d'eau. Il coûte 10 francs. Nous avons actuellement vendu ces Aquatabs à travers une organisation locale ici au Burkina, au Niger et au Ghana. On les vendait à 10 francs. Et nous avons vendu plus de 9 millions d'Aquatabs, ce qui fait que nous avons traité quelque chose comme 200 millions de litres d'eau. Et les bénéficiaires payent pour ces produits parce qu'ils reconnaissent l'importance. La pompe coûte 75 000, les Aquatabs coûtent 10 francs.
Maintenant, l'assainissement, parce qu'on a vu les questions d'eau.
Qui concerne l'assainissement, les choses sont un peu plus difficiles à approcher parce que ça nécessite un grand changement de comportement. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé au niveau des communautés où nous avons travaillé au Burkina Faso et dans les autres pays, on a essayé d'abord de sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène et de l'assainissement. Ensuite, nous les avons encouragés à investir un peu de leur temps et de leur argent dans la construction des latrines. Alors nous, on a subventionné les latrines, mais on n'a pas donné 100% les latrines, juste pour les personnes handicapées ou bien les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Le reste, ils ont actuellement payé une bonne partie.
À présent, l'agriculture, vous avez dit que vous essayez de vous adapter au changement climatique ou en tout cas d'adapter la production agricole au changement climatique.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'agriculture de subsistance au niveau local, la famille. Et donc nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons encouragé des fermiers dans plusieurs régions du pays à s'adapter. Par exemple, l'eau de pluie qui tombe, la majorité de cette eau, elle va où? Elle quitte le champ. Pourquoi? Parce que le fermier n'a pas utilisé une technique appropriée pour garder cette eau au niveau de sa parcelle. Ils ont aussi des connaissances, ça ne veut pas dire que nous, on vient avec toutes les connaissances du monde. Hein. Les gens aussi ont des connaissances. Il s'agit de mettre les deux ensemble et trouver quelle est la meilleure solution. Donc nous, on vient, on leur dit, voilà, si vous faites par exemple des 2001, si vous travaillez la terre un peu de cette façon, vous allez garder cette eau un peu plus, elle va s'infiltrer, elle va vous aider dans le développement. Si par exemple vous êtes dans une pente, on les encourage à cause de ces effets où les pluies sont devenues plus intenses. Alors on leur dit, par exemple, vous faites les cordons pierreux pour réduire le mouvement de l'eau dans la parcelle. Et la perte de la terre, de la surface, là, c'est la meilleure terre qu'on est en train de perdre. Si vous voyez là, durant la pluie, les cours d'eau sont marrons parce que toute la bonne terre est partie. Donc, il y a des petites techniques comme ça qui ne nécessitent pas un grand investissement, mais qui sont très efficaces.
Je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup, moi aussi. Thank you.
Donc, on va sur le terrain. L'idée ici, c'est de sélectionner des technologies simples et à faible coût, de sorte que les populations puissent se les approprier. La pièce maîtresse du dispositif, c'est la pompe à cordes.
Comment ça va?
Bonjour, monsieur. Bonjour.
C'est monsieur Lassane, le fabricant de pompes à cordes, Taïwa Traoré, dont je vous parlais.
Il nous faut gagner le secteur 17 de Ouagadougou pour trouver les ateliers de Lassane Zongo, artisan fabricant de pompes à cordes.
La promesse, c'est un atelier de soudure. On fait les ouvertures et les pompes à cordes, les pompes à pédales.
Les ouvertures, ça veut dire porte-fenêtre, porte de garage et tout ça.
Oui, les ouvertures, c'est les portes, les fenêtres. Bon, tout ce qui est ouverture quoi, pour les maisons et autres.
Alors moi, je suis venu vous voir pour que vous me parliez de la pompe à cordes. Comment ça fonctionne? Il y a une pompe ici, expliquez-moi ça.
C'est comme vous le voyez, c'est une pompe qui a été conçue sur place ici. Mm-hmm. On utilise les matériaux locaux, surtout comme vous voyez. C'est les tubes, les tôles, la corde, et puis les pneus, les ceintures des pneus.
Les vieux pneus?
Oui, les vieux pneus du moins, voilà. Les pompes sont venues, on a essayé d'améliorer un peu les pompes pour adapter à notre système ici. Et après ça aussi, on a eu à faire les formations, bon, former d'autres artisans quoi, pour qu'ils puissent fabriquer la même pompe. On a formé jusqu'à combien? 2, 3, bon, un à Koudougou, un à Boromo et puis un à Dédougou. Ils sont 3, plus moi nous sommes 4 au Burkina. Qui faisons ces modèles de pompe à cordes.
Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, vous avez amélioré la pompe et maintenant, il fallait vulgariser ça.
Il fallait vulgariser par d'abord former les artisans pour approcher surtout les bénéficiaires des fabricants.
Et puis, qu'on ne soit pas obligé de venir jusqu'à Ouagadougou pour avoir une pompe.
Surtout ça, pour ne pas venir à Ouaga pour chercher une pompe. Par exemple, quitter Ouagadougou, venir à Ouaga pour une pompe, du coup, ça devient cher. C'est pour cela qu'on a essayé de décentraliser et fabriquer former ces artisans pour la fabrication de ces pompes.
Alors, si moi je veux acheter cette pompe-là, ça va me coûter combien?
On a deux types. Par exemple, celle-là, elle coûte 75 000. Il y a une autre qui est derrière là.
Ah, je ne l'avais pas vue celle-là.
Oui. Elle, c'est 60 000.
Alors, si moi j'achète ça, vous me formez au maniement ou s'il y a une panne, comment je fais?
Si vous payez d'abord à l'installation, on vous montre comment vraiment les pannes fréquentes là, comment réparer. Mais aussi, on a mis un système de réparation sur le terrain, des agents réparateurs. Et sur le terrain, s'il y a une panne où vraiment vous ne pouvez pas réparer, vous pouvez les faire appel, ils vont passer.
Je vous remercie.
Oh, merci beaucoup.
Ok. Bon, merci.
Vraiment, merci beaucoup.
Okay. Okay. Allez, bonne journée. À présent, nous pouvons prendre le chemin de Tanguin Dassouri pour aller à la rencontre de ce programme USAID Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène. Première escale dans le village de Wegelega, une communauté réputée pour sa production maraîchère. Nous sommes accompagnés par Souleymane Zaré, responsable des relations publiques et de la communication du programme USAID Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau, l'hygiène et l'assainissement.
Dans ce village, on a eu à expérimenter les pompes à cordes. On a la pompe à cordes à pédales qui sert à arroser les périmètres maraîchers. Également aussi, on a la pompe à cordes.
C'est ça qui est derrière là?
Oui, c'est ça qui est derrière là.
Ça, c'est pour l'approvisionnement en eau potable.
Oui, en eau potable. Et la pompe à cordes à pédale, elle sert surtout à l'arrosage des périmètres maraîchers aussi pour l'abreuvage des animaux.
Pour l'abreuvement des animaux, comment ça fonctionne?
Oui, l'abreuvement des animaux, ils ont l'abreuvoir qui est là. Donc, ils pompent l'eau qui va sortir. Il va faire l'expérience, vous verrez. Il va faire surpomper pour que l'eau puisse remonter et ils mettent dans l'abreuvoir. Et puis, les animaux viennent s'abreuver.
Et c'est avec un bambou ou un PVC?
Non, c'est avec un PVC.
Il est en train de l'installer là, l'on voit.
Il est en train de l'installer.
Allez-y. Okay. Alors là, on pédale comme un vélo.
C'est un vélo. Il est en train de pomper. Vous allez voir que l'eau va remonter bientôt. Mm-hmm. Et puis, bon, c'est comme ça qu'ils font. C'est plus facile pour eux. Mm-hmm. Au lieu de tirer l'eau avec la force physique, c'est difficile.
Mais non seulement c'est difficile, mais c'est en très petite quantité.
Oui, c'est en très petite quantité.
Bon, on va voir le producteur.
Oui, allez-y.
Amado Yalpoukdou, habitant du village de Wegelega, est un producteur maraîcher qui a bénéficié d'une pompe à cordes à pédales pour le maraîchage et d'une pompe à cordes pour l'eau des boissons. Il nous raconte son histoire.
C'est un village qui travaille surtout essentiellement dans le jardinage. Ils font des tomates, ils font des haricots verts, ils font des choux et différentes autres productions.
Si j'ai bien compris, en saison pluvieuse, on cultive du mil, sorgho et tout ça, maïs. En saison sèche, on fait du maraîchage.
Les champs sont essentiellement utilisés effectivement pour la culture du maïs, du sorgho, du mil. Mais en saison sèche, ils utilisent maintenant, grâce aux installations ici, ils utilisent l'eau pour faire uniquement le jardinage.
Donc ils vont bientôt commencer.
Effectivement, comme on le voit, certaines parties ont commencé, comme les choux et la tomate, mais actuellement, ils sont en train de voir pour commencer des pépinières.
C'est ce qu'on voit là.
Oui, à côté, il y a une pépinière avec des céleris et des concombres qui vont bientôt prendre la place de l'espace qui était occupé par le maïs et le mil.
Mais ils ont toujours fait le maraîchage, mais avant que la pompe arrive, comment ils faisaient?
Et dit, effectivement, avant qu'ils aient le système de pompe à cordes, eux, ils puisaient à partir de puits, puisqu'ils ont de la nappe phréatique à une profondeur pas très grande. Mais c'était très épuisant parce qu'il fallait travailler avec leur poitrine, c'est la force. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Ils exploitaient des petits périmètres. Maintenant, avec la pompe à cordes, ils arrivent à puiser l'eau plus facilement, ils arrivent à irriguer beaucoup plus. Et donc, ça les permet à la fois de faire parfois de l'irrigation, puisque c'est le système de pompe qu'eux, ils ont, c'est flexible. Ils modifient en ajoutant des tubes pour faire entrer à l'intérieur directement des périmètres pour pomper et envoyer l'eau. Et donc, ça fait que c'est plus facile pour eux déjà d'élargir les champs et aussi d'élargir la production.
Alors, cette pompe-là appartient à qui? Ça appartient au village? Ça appartient à un groupement de maraîchers?
Pompe auto à Mam Denla.
Il dit qu'il est le propriétaire de la pompe.
Est-ce que des gens viennent le voir?
Il dit effectivement, beaucoup de gens viennent depuis qu'il y a ça, parce que ça attire d'abord la curiosité et se demande comment est-ce qu'on peut, à partir de ça, faire sortir de l'eau sans être fatigué comme quand on puisait avec la main.
Est-ce qu'il lui demande de aider-nous à trouver la même chose?
Oui, on demande effectivement que s'il peut les aider à obtenir la même chose.
On lui dit merci.
Il va remercier aussi et en disant aussi au nom de tout le village, merci également d'avoir fait le déplacement et d'être venu pour pouvoir voir ce qu'eux sont en train de faire et l'entendre.
Après l'eau agricole, l'eau potable pour la consommation courante et pour l'élevage. Toujours dans le village de Weglega, dans le secteur 2, rencontre avec Boukari Ilboudo, qui a été la première personne à avoir déboursé de l'argent pour acquérir une pompe à cordes promue par le programme.
Il est cultivateur et il fait aussi de l'élevage.
Alors, on m'a dit de venir le voir parce qu'il a été le premier à accepter la pompe à cordes.
Il dit que c'est vrai, il a été le premier à avoir accepté ça ici, mais il est vraiment très content de ça parce que la pompe lui rend énormément service, il l'utilise à différentes tâches et beaucoup de personnes aussi profitent de cette pompe. Et tout le monde qui consomme l'eau de cette pompe est vraiment ravi parce que par rapport au puits traditionnel, l'eau est propre, ils n'ont pas de saleté et ils sont vraiment très contents d'avoir ce puits.
Donc quand ils ont eu cet équipement, ça a changé complètement la vie ici.
Il dit qu'effectivement, parce qu'il y a véritablement un changement, parce qu'à partir des périodes du mois d'avril, correspond au plein milieu de la saison sèche ici, il n'y avait pratiquement plus d'eau au niveau du puits. Ils sont obligés d'aller prendre dans des puits parfois plus éloignées. C'est de l'eau boueuse, trouble, mais comme ils n'avaient pas le choix, c'est ce qu'eux, ils prélevaient toujours pour consommer. Mais maintenant, avec cette pompe à cordes, ils n'ont plus de problème en saison sèche pour l'eau parce qu'ils ont de l'eau potable tout le temps.
C'est-à-dire qu'à partir d'avril jusqu'au début de la saison pluvieuse, il n'y a pas d'eau dans le village. Et lui, il n'a pas le cœur à dire aux gens, ne venez pas dans mon puits.
Il dit que effectivement, bon, lui, on lui a donné la pompe, c'est pour lui. On a dit de s'aider lui-même. Mais si tu dois t'aider toi-même et puis ton voisin n'est pas vraiment bien, bon, tu ne peux pas fermer les yeux parce que c'est comme la maladie. La maladie peut passer d'une personne à l'autre. Donc, à cause de ça, les voisins qui viennent et les personnes même d'un peu plus éloignées qui arrivent pour demander l'eau, ils ne peuvent pas les empêcher d'enlever. Ils n'ont jamais cherché à les empêcher de s'approvisionner au niveau de sa pompe.
On lui dit merci.
Tonne pour tout le bar à cause de Baba Mihoki, il vit pour hier le nombre. Tonne sur les anneaux, vous never.
D'accord, que c'est plutôt à eux de remercier beaucoup. Et il vous demande aussi de pouvoir, quand vous allez rentrer chez vous, dire bonjour à vos familles de leur part. Parce que vous êtes venus de loin, vous avez entendu parler de leur situation et vous êtes venus voir pour témoigner. Et c'est une excellente chose. Et vous remercie.
Merci, merci. Monsieur Liboudo,
vous êtes changé d'âge. Merci
beaucoup. Merci beaucoup.
Pour le volet agricole, il nous faut aller dans le village de Koudiéré, de l'autre côté de la route goudronnée qui mène vers Bobo-Dioulasso. Il s'agit ici de ce que les spécialistes appellent l'agriculture intelligente face au climat, ou AIC. Salomon Justin Yamego est coordonnateur du département suivi évaluation du programme USAID Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène.
Nous sommes dans le village de Koudiéré. Et ici, le projet a eu différentes activités, dont la mise à disposition de pompes à coût modéré qui servent à la fois pour les activités agricoles et aussi pour la consommation ménagère. Et aussi, on a formé certains paysans à l'exploitation agricole adaptée au changement climatique. Il s'agit d'un ensemble de techniques que l'on apprend pour produire qui répondent aux besoins des changements climatiques, pour que la production soit adaptée et que les paysans puissent toujours gagner suffisamment pour survivre et même vivre en évitant les aléas des changements climatiques que nous avons.
Quelles sont ces techniques ?
De ces techniques, on a d'une part les techniques culturales, qui sont par exemple les semis en ligne sur des buttes, on a les cordons pierreux, on a tout un ensemble d'autres choses, mais on a également la sélection des types également de plantes à mettre en place. Il y a des semences qui sont de durée plus courte en gestation que les autres, afin de pouvoir permettre de récolter avec les périodes de pluviométrie qui sont courtes. Il y a aussi l'association de certaines plantes qui permettent de préserver les sols, de protéger comme certains types d'acacia, il y a le moringa. Il y a aussi l'association des cultures pour pouvoir permettre de récolter le maximum sur les surfaces exploitées.
Je vous remercie, on va voir le producteur. Sambo Kabore est un agriculteur habitant le village de Koudiéré. Il est bénéficiaire des activités relatives à l'adaptation de l'agriculture aux effets des changements climatiques.
Il dit que le projet qu'il a appris, la technique du Zaï, parce que quand le projet est venu, avant eux, ils travaillaient simplement avec les marigots. Et maintenant, le projet est venu leur montrer la technique du Zaï pour pouvoir adapter avec les sols. Et là, vraiment, ça fait 3 années qu'il travaille là-dessus. Il est vraiment très content.
C'est-à-dire qu'avant, la sécheresse l'avait contraint à travailler seulement que dans les bas-fonds. Mais maintenant, avec le Zaï, il peut aller où il veut.
Oui, donc c'est vrai que la technique du Zaï qu'il a appris est très bien. Il continue la production au niveau des bas-fonds, mais en plus du bas-fond où il produisait, il arrive à produire maintenant sur des surfaces où il ne pouvait pas produire et ça lui rapporte énormément plus.
Mais donc avant ça, lui, il ne savait pas qu'on pouvait cultiver sur ces superficies qu'il utilise aujourd'hui avec le Zaï.
Donc, en fait, il savait qu'on peut produire en dehors du bas-fond. Mais comme il ne connaissait pas, il se débrouillait, il plantait comme ça. Et ce qu'ils obtenaient, bon, c'était des quantités modestes. Maintenant, c'est les ailes qui les permet vraiment d'exploiter en dehors du bas-fond et d'obtenir de grands résultats.
Est-ce que lui, il enseigne les ailes qu'il a appris aux autres producteurs du village ?
Que depuis les 3 années qu'on les a formés, lui il produit dans ça. Mais au départ, pour le village au niveau de Koudiéré ici, ils ont été 20 à avoir été formés par le projet à ces techniques. Et sur les 20 là, Bon, il y en a qui sont un peu au niveau des périphéries et chacun est à son niveau et fait sa production. Il sait pas, il n'a pas une idée totale de comment les autres actuellement produisent. Mais à son niveau ici, bon, il y a des gens qui regardent parfois ce que lui fait, qui sont intéressés et qui essayent de suivre.
Donc c'est l'avenir ça pour lui.
Il a dit que pour lui c'est vraiment l'avenir. Il a pensé le Zaï, il n'a pas l'intention d'abandonner parce qu'il voit ce que ça lui rapporte. Et il a même fait, parce qu'on leur a appris aussi le compostage. C'est vraiment une technique que lui il ne laissera pas parce qu'en 3 années il voit ce que ça a changé dans sa vie. Parce qu'en appliquant le Zaï et en utilisant l'engrais naturel qu'il a fait par le compostage, il se rend compte que c'est bon d'enrichir le sol pour produire. C'est pour ça que aussi il a commencé à faire le jardinage parce qu'il voit qu'on peut exploiter là où on ne croit pas qu'on peut exploiter, au moment où on ne croit pas qu'on peut aussi le faire de là-bas.
Nous étions à Weklega Ikoudjiré, le village de la commune de Tanguindassouri au Burkina Faso, avec les responsables terrains et les bénéficiaires du programme USAID Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante.